Voilà, alors je peux dire un petit peu comme Job, mais je retranscris en trahissant le texte. Mes oreilles avaient entendu parler de vous, mais maintenant, mes yeux vous voient. Parce que j'ai eu la joie ce week-end de rattraper pas mal de retard. Ça faisait longtemps que je voulais visiter le Château Blanc, et hier, enfin, c'est arrivé. Et ça faisait longtemps que je voulais visiter ici l'église de Voivrin. J'ai failli arriver jusqu'ici en 2006. Et j'ai eu la bonne idée d'avoir une double fracture tibia-péronée juste avant le voyage. Et donc, voilà maintenant quelques années que j'attends de vous voir. Et je suis enfin là et très heureux de faire votre connaissance. Voilà, Sandrine, aussi mon épouse, vous salue bien. Malheureusement, c'était pas possible de venir en famille. Enfin, c'est toujours une organisation un petit peu compliquée. Donc, voilà, mais elle vous salue bien. Alors... Et ce matin, j'aimerais vous partager une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 14. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 14, mais avant, j'aimerais encore prier courtement. Seigneur, on veut encore ce matin te dire notre reconnaissance pour l'héritage que tu nous laisses dans les Écritures. Et nous voulons te demander, Seigneur, ce matin encore, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles à la parole que tu veux nous adresser, pas à la parole de Franck, mais à la parole qui est sur ton cœur. Nous voulons te demander, Seigneur, que cette parole porte du fruit dans nos vies, que cette parole nous encourage, remette les choses dans le bon ordre, nous donne le sens des priorités qui sont selon toi. Merci pour ta parole parce qu'elle est esprit et vie. Amen. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes, en tant que personnes rassemblées, une construction, un temple dans lequel Dieu habite. J'aime bien rappeler que au premier siècle, si vous vous baladiez à Corinthe et que vous cherchiez l'église, comme on en aurait l'habitude aujourd'hui, vous auriez été bien emprunté. Parce qu'il n'y avait pas de panneau, ici, église chrétienne, culte, dimanche, 10h, réunion de prière, jeudi, 20h, et ainsi de suite. Les premiers croyants se réunissaient dans les maisons, dans certains lieux publics. Et ils avaient pleinement la conscience que l'église, c'était eux. C'était pas un bâtiment. C'était pas un local. On a besoin de locaux pour se réunir, évidemment. Mais l'Église, c'est nous. Et on a aujourd'hui, dans notre langage courant, des phrases que vous ne trouvez pas dans le Nouveau Testament. Ce matin, nous allons à l'Église. Je vous défie de trouver ça dans votre Bible. Et pourtant, nous le disons régulièrement. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église. Et l'Église, donc, est à l'image d'un temple. Alors, ce matin, j'aimerais essayer de vous mettre dans l'ambiance. Je vous dis tout de suite, c'est pour illustrer le message. Malheureusement, ça ne sera pas vrai. J'ai pour chacun de vous 1 million d'euros pour vous construire une maison. Je sens qu'il y a des sourires qui viennent sur les visages. Hein. Ça fait comme un peu rêver. Mais voilà, une petite condition derrière pour ce 1 million d'euros. C'est que c'est moi qui vais décider comment on va construire cette maison, votre maison. Et puis moi, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Alors tiens, pour la maison de Jean-Luc, je vais mettre la porte d'entrée au 4e étage. Et puis, dans le salon et dans les chambres, on va mettre aucune fenêtre. Et on mettra l'électricité seulement 1 fois sur 2. Pour 1 million d'euros, ouais, mais on peut faire des étages par contre. Hein. Mais je ne mettrai pas l'ascenseur pour Jean-Luc, il doit faire du sport un peu. C'est... Voilà. Construire une maison, c'est une chose. Si je la fais à votre place, là j'exagère les traits, c'est déjà un peu moins intéressant. Même avec 1 million d'euros. Pourquoi ? Parce que quand on a les moyens, la possibilité de construire sa maison, on a envie de la construire selon ce qu'on a dans le cœur. Pourquoi ? Pour qu'on s'y sente à l'aise. Pour qu'on se sente chez soi. On a envie que la maison qu'on va construire reflète qui nous sommes. Reflète nos valeurs. Reflète nos goûts. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu un peu ce phénomène, quand vous partez en vacances, même si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison, quand on part en vacances, on est très content des fois de loger ailleurs, de voir autre chose, mais on est aussi très content de rentrer à la maison et de retrouver notre chez-soi, nos lieux, nos repères, parce que c'est chez nous, parce que ça nous reflète, même si ce n'est pas l'appartement de nos rêves ou la maison de nos rêves, on a quand même fait en sorte... que ça soit chez nous. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Que pensez-vous que Dieu souhaite pour sa maison, son temple ? Est-ce que le temple que nous formons est construit pour que nous soyons à l'aise ? Ou est-ce qu'il est construit pour que Dieu se sente à l'aise ? Pour que Dieu se sente à l'aise, hein, ouais. Pourquoi je pose cette question ? Parce que nous sommes, que nous le voulions ou non, fortement influencés par la société de consommation aujourd'hui. Et je vois souvent, quand les gens choisissent une communauté, une église, leur critère de choix, c'est est-ce que je peux me parquer facilement ? Est-ce qu'on s'occupe des enfants ? Est-ce que la louange est bonne ? Est-ce que le prédicateur est intéressant ? Est-ce que le pasteur est gentil ? Je ne dis pas qu'on réfléchit tous comme ça, je dis que souvent c'est les critères de réflexion que j'entends. En fait, toute notre réflexion, c'est est-ce que je vais me sentir à l'aise dans cette communauté ? Est-ce que je vais me sentir à l'aise dans cette maison ? Alors que la question devrait être, là où je construis une vie communautaire, est-ce que Dieu va être à l'aise ? Est-ce qu'il va se sentir chez lui ? Ou est-ce qu'il va être dans quelque chose qui est un peu étranger à lui-même ? Alors, en se posant cette question, j'ai essayé de voir dans la Bible quelles indications on avait de comment Dieu se sent à l'aise. Où est-ce qu'il se sent à l'aise ? Une première chose que j'ai observée, c'est que déjà, chaque fois que Dieu a fait construire une maison, il a toujours donné les plans avec. On n'a pas le temps ce matin de retracer le détail hein, de tout ce parcours. Première maison, c'était plutôt du camping dans le désert, c'est quand Dieu a montré à Moïse le tabernacle, la tente de la rencontre. Si vous relisez le livre de l'Exode, vous verrez le nombre de détails que Dieu donne sur comment construire le tabernacle. Rien n'est laissé au hasard. C'est pas Moïse qui s'est dit, ah tiens Seigneur, avec la colonne de feu, la colonne de nuée, ça serait quand même sympa que tu aies un lieu pour te poser. On va te faire une tente, tu vas voir, on va te faire une tente dans un beau bleu marine. Et on va dessiner des petits anges dessus, ça sera parfait. Non, c'est Dieu qui a donné le plan et le détail. Parce qu'il y avait même un message au travers de ce lieu, de cette maison. Dieu écrivait au travers de cette maison quelque chose de lui-même et de son projet, aussi de son projet pour l'humanité. Et puis, ensuite, et ça je ne l'avais pas forcément réalisé bon, au début, ça a été la même chose pour le temple qui a été construit à Jérusalem. Vous vous souvenez cette histoire du temple à Jérusalem? C'est une idée de David. David, il a dit, ouais, mais Seigneur, tu peux quand même pas loger dans une tente comme ça tout le temps. Faut qu'on te fasse quelque chose de mieux. Moi, je vais avoir un palais, j'ai un palais, mais toi, faudrait que tu loges dans quelque chose de bien, pour autant qu'on puisse loger Dieu. Et puis, il est dit dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28, là aussi, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, que David a reçu un document, des documents de la part du Seigneur, je ne sais pas sous quelle forme et comment, pour savoir comment construire le temple. Il a aussi dit à David, ça serait son fils Salomon qui le ferait, mais il a reçu, Dieu a dit, ok, il y aura un temple, mais ça ne sera pas fait n'importe comment. Il y a un plan. Et je crois qu'il y a un plan pour l'Église aussi. Où Dieu se sent-il à l'aise? Une première chose, je pense que c'est en quelque sorte le salon de Dieu, son lieu de canapé. C'est la louange et l'adoration. Psaume 22 nous dit « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ». Où c'est que Dieu siège? Où c'est que Dieu est installé? Où c'est que Dieu peut se poser, d'une certaine manière se reposer? C'est dans la louange et l'adoration. Quand nous faisons monter vers lui notre louange et notre adoration sous toutes ses formes. Jésus nous a dit, et maintenant le temps est venu où le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce matin, j'invente pas la poudre hein, dans le message qui est sur mon cœur. Il y aura pas grand chose de neuf si vous attendez des scoops. Mais j'aimerais vous encourager à persévérer dans les choses qui sont les choses essentielles sur le cœur de Dieu, à ne pas les perdre de vue. Parce que je crois que c'est un des plus gros défis de notre vie chrétienne, c'est que on est très vite distrait par des choses secondaires et on oublie les choses essentielles. La louange et l'adoration. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu aime s'arrêter là au milieu. Et nous, souvent, nous attendons les louanges des autres. Nous attendons toutes sortes de choses, mais nous avons de la peine à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. La véritable louange, la véritable adoration, elle coûte toujours quelque chose. Parce qu'elle nous descend de nous-mêmes. J'aimerais juste dire au passage, la louange et l'adoration, c'est pas quand on se sent bien parce qu'il y a une bonne musique. Et qu'on a un cantique très émotionnel. Des fois, on confond louange et adoration et ambiance cool. J'ai rien contre les beaux cantiques. J'ai rien contre la belle musique, au contraire. Mais la louange et l'adoration, elle coûte parce que quand vous louez et vous adorez vraiment, vous adorez pas pour l'ambiance. Vous adorez parce que vous aimez le Seigneur et vous voulez le lui dire, vous voulez le lui exprimer. Alors, c'est une bien maigre consolation, mais ici, nous tous, en tout cas moi, je suis immature encore. Donc souvent, ma louange et mon adoration est mélangée entre des motifs de véritable adorateur et des motifs égoïstes. Mais je suis appelé à continuer de progresser dans le fait de me décentrer de moi pour me centrer sur le Seigneur. Il y a un auteur qui dit que l'adoration, c'est quoi? On pourrait le retranscrire par « se concentrer sur le Seigneur ». Ça ne veut pas dire entrer en transe, mais centrer nos pensées, nos cœurs sur lui. Et puis, et au Château Blanc, on le sait bien, Dieu a dit que sa maison est appelée à être une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Dans la maison de Dieu, il y a un cœur pour les nations. Il y a un cœur pour les peuples. Il y a un cœur qui crie. Dans la maison de Dieu, il y a un cri. Il y a un cri de douleur qui monte pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent sans lui, qui se détournent de lui. Vous savez, encore hier, même ce matin pendant le temps de louange, j'y pensais encore, mon cœur était brisé. Hier, quand j'ai pris le train, j'ai eu un peu de retard parce qu'il y a une dame qui a fait un malaise à Dijon et qui est décédée. Et on a dû changer de train, enfin voilà, et tout ça. Et puis c'était intéressant de voir les réactions dans le wagon où j'étais. Ce n'était pas le wagon où le décès a eu lieu. Première réaction, la plupart on sentait, plusieurs devaient prendre l'avion à Charles de Gaulle. On n'a pas pensé à la dame et son malaise, on a pensé à l'avion qu'on allait avoir en retard. L'être humain, froidement, hein. Et puis après, ça a commencé de susciter nos deux conversations, et en particulier avec une dame qui a mentionné clairement qu'elle avait pensé plusieurs fois au suicide par rapport au fait que la vie, pour elle, avait probablement à certains moments peu de sens. Et dans la conversation, je voyais qu'elle avait jamais entendu qu'il pouvait y avoir un sens au-delà d'avoir sa maison et de voyager et d'essayer de profiter un peu de la vie. Dieu est à l'aise dans sa maison quand il y a un cœur, des cœurs qui crient pour le salut. Quand je parle de salut, je ne parle pas d'aller au paradis, juste. Je parle d'être sorti du non-sens, sorti du vide, du néant, pour aller vers quelque part. Pour aller vers le Seigneur, pour entrer dans son amour. Et puis, je crois que Dieu est à l'aise, et ça c'est dans ce qu'on a lu tout à l'heure dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, il est à l'aise dans le pardon et la réconciliation. Des deux, des juifs et des non-juifs, il n'en a fait qu'un seul. L'Église primitive, comme on dit, l'Église du premier siècle, qu'on idéalise. Ça, je trouve toujours assez fantastique comme on idéalise les premiers chrétiens. Si on lit le texte un peu plus près, ils étaient aussi bien que nous, ces gens. Ils étaient capables de scraper le chignon, de passer à côté de l'essentiel, tout aussi bien que nous. Je ne dis pas mieux que nous, hein, mais tout aussi bien. De manière, c'est un concours, on n'a pas envie d'être gagnant. Ça grinçait déjà entre les juifs et les non-juifs. C'était un peu la guerre ethnique à l'intérieur de l'Église, souvent. Rendez compte, deux cultures, deux arrière-plans religieux complètement différents au départ, qui sont appelés à vivre un esprit de famille. Pas facile. Et puis, même à Jérusalem, quand c'était entre juifs et juifs, même là, c'était pas facile. Entre les juifs nés en Israël et les juifs qui sont venus de la diaspora et qui étaient sur Jérusalem. Ceux de la diaspora avaient l'impression d'être négligés dans le partage des biens qui se faisaient dans la communauté. Il y avait des jalousies, des impressions de favoritisme. Ici, c'est quoi le numéro du département ? 59, hein, c'est ça ? Déjà entre le 59 et le 62, rassemblés ce matin. J'ai compris que si tu vois 62, méfie-toi, non ? J'enregistre très vite, hein, t'as vu, j'apprends. Hein. Alors là, on rigole, hein, et c'est très bien. C'est très bien de rigoler entre différentes régions, entre différentes origines ethniques, quand on peut plaisanter, c'est très bon signe. Mais il y a des fois des trucs un peu qui nous pourrissent la vie. Et on a besoin de pouvoir vivre cette réconciliation, cette communion, cette unité. Dans l'Épître aux Éphésiens, dans la suite du texte que je vous ai lu ce matin au chapitre 6, il est parlé de la tendance à la division entre parents et enfants. Quand Paul dit « Enfants, obéissez à vos parents » et « Parents, n'usez pas vos enfants », pardon, n'irritez pas vos enfants. Il y a aussi dans le texte de Paul la relation maître-esclave, on pourrait dire aujourd'hui la société ayant évolué un petit peu patron-ouvrier. Là aussi, et je pense particulièrement en France, trop souvent le patron est forcément quelqu'un qui va profiter de nous et l'ouvrier est forcément quelqu'un qui va chercher à se tirer les flûtes pour en faire le moins possible. Et quel climat ça donne. Et le lieu où il faut que ça soit différent, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la réconciliation que Dieu aime poser ses pieds, dans la réconciliation que Dieu est à l'aise. Ça sent tellement bon quand il y a la réconciliation ou quand Jésus est au centre. Je reviens d'Israël, enfin j'ai fait un voyage en Israël fin mars. Et j'étais marqué, j'ai rencontré des chrétiens palestiniens à Bethléem et des juifs messianiques vers Tibériade. Quand les uns et les autres partageaient de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, c'était fantastique. Mais quand les chrétiens palestiniens ont commencé à parler de politique, le climat dans la pièce sentait nettement moins bon. Mais quand nos amis juifs messianiques ont commencé à parler de politique, le climat dans la pièce sentait nettement moins bon. On sentait à la fois l'œuvre de Dieu, puis en même temps on sentait les racines d'amertume de part et d'autre. Je ne juge pas parce qu'il faut être accroché hein, pour ne pas laisser les racines d'amertume après les parcours des uns et des autres. Faut être solide hein, dans sa communion avec le Seigneur. Je ne lance pas de pierre à ses frères et sœurs en Christ. Mais c'est pour vous dire que seule la réconciliation fait vraiment une différence. Et j'étais touché à Jéricho, en territoire autonome palestinien. On a visité une école ouverte par Tassada, un ancien tireur d'élite de l'OLP qui était assez proche de Yasser Arafat, qui a fait quelques victimes hein, dans sa carrière de tireur d'élite, et qui dit « Dans ma vie, avant de connaître Jésus, il y a eu trop de haine et de choses comme ça, maintenant je vais enseigner aux enfants de mon peuple l'amour, respect. » Et dans ce lieu-là, on nous a partagé simplement le cœur de Jésus pour les enfants de Jéricho. Il n'y a pas eu de politique. Et ça sentait bon. Ça sentait bon, le royaume de Dieu. Pour moi, j'avais l'impression de voir la vraie prise de Jéricho. Pas celle de l'Ancien Testament, mais la prise moderne de Jéricho. Des gens qui vivent dans l'esprit contraire à l'amertume et à la haine, sans renier leur peuple. La maison du Père, la maison dans laquelle il est allé, c'est une maison où la croix est au centre. C'est à la croix qu'il nous a fait grâce, et c'est à partir de cette grâce qu'on reçoit qu'on peut faire grâce aux autres. Si on compte que sur nos propres forces pour faire grâce, on est mal barré. Mais c'est quand on est conscient de la grâce, quand on l'accueille dans notre vie, qu'elle devient efficace pour la vie des autres. Celui à qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup, celui à qui l'on a peu pardonné aime peu. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils croyaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être beaucoup pardonnés, donc ils n'aimaient pas beaucoup du tout. Mais il y a d'autres personnes qui étaient conscientes d'avoir profondément besoin de pardon. Et ces personnes-là, rencontrées par Jésus, ont aimé beaucoup. souvent notre manque d'amour, c'est parce qu'en fait, nous avons eu beaucoup, enfin peu conscience de notre besoin de grâce dans notre propre vie. Est-ce que nous sommes conscients du besoin de grâce dans notre propre vie? Pas dans la vie des autres, hein. Dans les Lamentations de Jérémie, sauf erreur, il est dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il y a déjà suffisamment de boulot. On peut se plaindre, mais si on pleure en premier lieu sur notre propre état. Et là, moi, je vous parle de quelque chose que je mets encore bien insuffisamment en pratique. En ce moment, j'ai des dossiers à la CAF, à l'URSSAF et à plein d'endroits qui n'avancent pas. Ça me fait rager et je ne sens pas beaucoup de grâce dans ma vie. J'ai besoin de retourner vers le Seigneur. Puis en même temps, si je suis honnête, j'ai pas mal de mails en retard, j'ai pas mal de dossiers que j'arrive pas à faire avancer. Je les vois pas beaucoup, ceux-là. Je vois surtout ce qu'on n'a pas fait pour moi. J'ai de la peine à voir ce que j'ai pas fait pour les autres. La maison du Seigneur, c'est aussi une maison ouverte. C'est pas une prison barricadée. C'est pas un lieu de repli sur une haute montagne fermée. C'est un lieu ouvert et accueillant. La parabole des noces. Allez chercher, si les invités viennent pas, allez chercher dans les rues, partout. Invitez, rassemblez, dites-leur de venir. Ça, c'est le cœur de Dieu aussi. Une maison d'adoration, mais aussi une maison où on accueille. Il y a différents étages dans la maison du Seigneur, différentes fonctions. J'étais touché hier au Château Blanc parce que j'ai vu quelque chose à quelque part que j'ai eu en rêve il y a plus de 20 ans. Un lieu à la fois où il y a l'étage de l'accueil, l'étage de l'enseignement, de l'ouverture, où on vient un peu des quatre coins pour trouver de la nourriture, pour être ressourcé, mais aussi des chambres, des lieux pour prier, pour adorer, pour vivre toutes ces dimensions. Je ne vais pas trop, parce que j'ai l'impression que je dépasse le temps que je m'étais donné. Ouh là là, ouais. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais je me suis aussi rappelé dans la Bible que tant pour le tabernacle que pour le temple, et pour l'Église au début des Actes des Apôtres aussi, ces maisons ont pu s'édifier parce que les croyants se sont offerts eux-mêmes et ont offert leurs dons pour que cette maison puisse s'édifier et grandir. Alors, pour le tabernacle, c'était par exemple des dons artistiques que Dieu a donnés et qui ont été mis au service de la construction de ce tabernacle. C'était aussi des dons matériels. Les Israélites ont donné, mais ils ont donné quoi? Ils ont donné ce que Dieu leur avait donné. Ils ont redonné un peu de ce que Dieu leur avait donné. Parce que c'est les Égyptiens, en partant, qui ont donné de l'or, des étoffes et tout. Et le peuple, pour exprimer son amour pour Dieu, a choisi de redonner une partie pour que le tabernacle soit édifié. C'est la même chose pour le temple. Il a été édifié en partie aussi avec des offrandes volontaires. Et dans les Actes des Apôtres, on voit les premiers chrétiens mettre leurs biens en commun pour édifier la communauté. Alors, il y a différentes manières d'exprimer cela. Mais j'aimerais vous encourager, non pas à la télévangéliste, donne un max de pognon, Dieu te le rendra. Touch your TV screen and receive, yes, hallelujah. Bon, passons. Alors, mais j'aimerais vous encourager à vous mettre devant Dieu et à vous demander aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à mettre à ton service? Qu'est-ce que je peux t'offrir de tout cœur et avec joie? En fait, à mon avis, si on est pleinement au Seigneur, tout lui appartient dans notre vie. Mais il y a peut-être des fois quelque chose de plus particulier qu'il nous a prêté, qu'il nous demande de lui rendre à un moment donné. Et d'être disponible pour cela. Et puis j'aimerais conclure en rappelant pourquoi le temple. Le but majeur, c'est quoi ? Le tabernacle, le temple à Jérusalem et l'église, leur fonction fondamentale, c'est de contenir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait la colonne de nuée qui était là, sur le tabernacle, la présence de Dieu qui venait rencontrer le peuple d'Israël, rencontrer Moïse. Dans le temple à Jérusalem, ça je vous le lis quand même rapidement, 2 Chroniques 5, c'est dans ces textes qu'on voit que dans la Bible il y a de la suite dans les idées. Les prêtres ressortirent du sanctuaire, 2 Chroniques 5, 11. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés sans observer l'ordre des groupes. Les lévites musiciens, Asaph, Eman, Yedutun, ainsi que leurs fils et les autres membres de leur clan, étaient revêtus de fin lin. Ils se tenaient avec des cymbales, des harpes et des lyres à l'est de l'autel. Près d'eux se trouvaient 120 prêtres, sachant jouer de la trompette. Tous ensemble, les joueurs de trompette et les autres musiciens, se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. Lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, acclamez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin, un nuage remplit le temple. C'était pas le grille-pain de Jean-Luc ce jour-là. La maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Ça c'est dingue, cette puissance de Dieu. Et vous avez vu ici le petit détail ? Il est mentionné 120 prêtres. Ils étaient combien le jour de la Pentecôte, quand le nouveau temple a été inauguré ? Quand le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu, ils étaient 120. Il y a une annonce prophétique de ce qui est appelé à venir. Et aujourd'hui, nous sommes toujours au temps de la Pentecôte. Hein ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes une maison, ce n'est pas pour nous contenir nous-mêmes ou contenir nos aspirations, c'est pour que Dieu puisse y résider et s'y manifester librement. Et je pense que vous pouvez tous le dire avec moi, quand Dieu remplit nos vies, quand on est décentré de soi et que Dieu prend toute la place, est-ce qu'on est mal à l'aise ? Y a-t-il plus grand bonheur que cela ? Quel est le bien le plus précieux de nos vies que personne ne peut nous voler si nous ne le négligeons pas ? C'est la présence de Dieu. Je reviens à ma question du début, où Dieu se sent-il à l'aise ? Vous savez, le problème, c'est que souvent on cherche à nous être à l'aise. Mais quand on cherche à être à l'aise pour nous-mêmes, eh bien, on va être égocentrique, donc ça va générer de la jalousie, de la division, des tensions, des difficultés. Quand on se décentre de soi et qu'on se centre sur le cœur de Dieu, ça produit quoi ? La réconciliation, l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et on ne se sera jamais senti autant à l'aise que quand Dieu prend toute la place. L'adversaire essaye de nous faire croire que ça marche dans le sens inverse. Mais quand les choses sont mises dans le bon sens, la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est d'être rempli dans vos vies personnelles et dans votre vie communautaire de la gloire, de la manifestation, de la présence de Dieu. Et d'être tellement rempli que ça ne peut que déborder sur tout l'entourage ici. Vous savez, hier, quand on a eu ce repas communautaire avec quelques-uns d'entre vous, et que je voyais ce mariage à côté, ces amis de différentes provenances, je sentais quelque chose du cœur de Dieu pour ces personnes. Dieu vous voit, vous, et il vous aime profondément, mais il voit aussi toutes ces personnes ici. Il les voit, et son cœur brûle. et c'est sur vous qu'il compte pour que sa puissance soit manifestée, que son nom soit connu et que les gens trouvent le sens de leur existence. Je vais m'arrêter là et j'aimerais prier si Jean-Luc, tu es OK. Père, merci de t'être fait connaître à nous. Merci d'être venu sur le chemin de nos vies. Merci de nous avoir tendu ta main. De nous avoir pris avec toi au travers de Jésus. Et Père, nous aimerions te dire ce matin le désir de notre cœur, que tu sois à l'aise dans ta maison. Aide-nous, Père, à accueillir ton œuvre. Aide-nous à accueillir le fait que peut-être tu reformes ou tu déplaces certaines pierres dans l'édifice. Père, donne-nous ce cœur d'adorateur, ce cœur qui fait qu'on te consacre nos vies sans réserve. Père, nous avons besoin de ta grâce encore ce matin. Nous avons besoin que tu nous aides à progresser en maturité, à aller de l'avant. Et Père, j'aimerais te demander de bénir puissamment cette église ici à Wavrin, cette communauté. J'aimerais te demander de bénir puissamment toute la région de l'île des environs, le 59, le 62 et au-delà. J'aimerais te demander, Père, que ta gloire soit encore manifestée. On veut te bénir pour tout ce que tu as déjà manifesté dans ce pays, dans cette région. Mais on veut te demander encore un renouvellement, un élargissement. Une croissance de ta maison, pas pour faire du chiffre, mais pour qu'un grand nombre puisse s'y réjouir. Puisse trouver ton cœur. Père, je te prie de libérer ce qui doit l'être encore dans la vie des uns et des autres, pour que ta gloire soit pleinement manifestée. Dans le nom de Jésus, par la puissance de ton esprit. Amen.